Ce que nous allons partager va nous aider à vivre cette semaine de jeûne et prière. Vraiment, je le pense. Dans 1 Chronique, au chapitre 13, David vient d'obtenir la royauté. Il ne va pas s'occuper des routes, de l'armée. Il a un fardeau. Un roi, lorsqu'il obtenait la royauté, il s'occupait des choses matérielles, militaires, de la topographie des routes, etc. David, lui, il a un fardeau. 1 Chronique, chapitre 13, verset 1er. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans toutes les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamas, pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uzza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uzza, c'est-à-dire une brèche. J'ai envie de dire de plus. David eut peur de Dieu en ce jour-là et dit, « Mais comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient. Chapitre 15. David, 3 mois ont passé. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Verset 12. Il leur dit, « Vous êtes les chefs des familles des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères. » Et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules, avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs de milieu se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Verset 26. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et tout le monde, vous pouvez dire, amen, parce que c'est ce qu'on veut, l'assistance de Dieu. Si vous gardez ce texte, on va y revenir, J'aimerais que vous alliez un peu en avant dans 2 Samuel au chapitre 1er. Il y a une explication de la raison de la chute de Saül dans le cantique funèbre de David. 2 Samuel chapitre 1er, oui c'est le chapitre 1er, on va lire la fin du verset 21. Il y a une explication, c'est un cantique funèbre, David, inspiré par Dieu, va composer un cantique pour honorer Saül. 2 Samuel chapitre 1 verset 21. Il y a là une explication, la dernière phrase. Regardez bien. Regardez bien. 2 Samuel 1 verset 21b, ce qu'on appelle. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Le bouclier de Saül, l'huile avait cessé de l'oindre. Saül a été choisi par Dieu. Saül était quelqu'un de bien, très bien. Et il a très bien commencé, d'ailleurs pendant 2 ans il a bien commencé. 2 ans ça a duré, vous pouvez le vérifier. On va le lire, regardez. 1 Samuel 13. C'est important de comprendre, de voir comment les choses se sont passées, parce que vous avez vu ce qu'il est dit, du temps de Saül, on ne s'est pas préoccupé de l'arche de l'Éternel. Saül, ça représente l'homme selon la chair, malgré l'onction. Malgré l'onction, d'ailleurs je crois que c'est la personne dont on parle le plus dans la Bible qui a eu l'onction. Je crois que 11 fois on parle de l'onction de Saül. Dans, je l'ai dit, 1 Samuel 13, regardez. Ça a duré 2 ans. 2 ans. C'est pas beaucoup. 1 Samuel 13, Saül était âgé de... Lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Et à partir de là, il a été complètement insensé. Dieu le lui dit d'ailleurs, tu as été insensé. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce qu'il n'a pas compris ce qu'il devait faire. Et de plus, la jalousie est entrée dans son cœur. Et quand vous voyez comment cet homme a commencé, pendant 2 ans, un homme de Dieu, qui a été jaloux parce qu'un jeune à côté de lui avait l'onction, justement. Et de cette jalousie maladive, et pourtant Dieu l'a utilisée. À certains moments, on voit Dieu, on voit même cet homme prophétiser. Vous savez, on peut prophétiser et être vraiment charnel. Ça nous dépasse tout ça, mais ce n'est pas le sujet de mon explication. Ce que je voudrais ce matin partager avec vous, c'est exactement ce que Vincent l'Allemand a présenté dans la Sainte-Seine quand il a posé la question, mais est-ce que vraiment vous avez soif de la présence de Dieu ? Beaucoup de chrétiens confondent cette affaire, même cette question. Les gens ont soif de la bénédiction de Dieu. Mais ça, tout le monde a soif. Demandez à un païen qui est malade, est-ce que vous aimeriez que Dieu vous guérisse ? Est-ce que vous avez soif de guérison ? Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Je ne nous demande pas, Dieu ne nous a pas demandé si nous avions soif de guérison. Le Seigneur nous a posé la question, est-ce que nous avons soif de sa présence ? Du temps de Saül, qui représente vraiment l'homme charnel malgré l'appel, on ne s'est pas occupé de ramener l'arche. On n'avait pas abandonné le culte. Beaucoup de gens n'ont pas abandonné la religion, n'ont pas abandonné leur vie, leur ministère, leur service. Tout ça, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, qui vraiment était conscient de... que ce qui était important, c'est qu'à Jérusalem, il y ait l'arche qui représente la présence de Dieu. Dans nos églises, dans le corps de Christ, qu'est-ce que c'est qui est important ? Que l'on soit nombreux, que l'on ait de l'argent, que l'on ait des talents. Bien sûr que tout ça, Dieu peut le bénir. Mais ça n'amène pas l'onction, ça. Rien ne remplace l'onction. L'onction, elle vient d'en haut. Et elle ne vient que lorsque nous aimons la présence de Dieu. Pas la bénédiction. Il y a plein de gens qui, ce matin, vous êtes peut-être venus pour la bénédiction. On ne vous le reprochera pas, parce qu'en plus, ce n'est pas interdit de venir pour la bénédiction. Cet après-midi, il y aura des personnes nouvelles, elles vont venir pour être guéries, pour être bénies. Est-ce que c'est bien ? Bien sûr. Mais mes frères et sœurs, sincèrement, qu'est-ce que nous voulons ? Est-ce que nous voulons que la présence de Dieu se manifeste dans l'Église ? Est-ce que nous voulons que la présence de Dieu soit dans l'Église, ou est-ce que nous allons nous laisser empêtrer par tous ces combats, des combats, certains sont bien, certains sont inutiles, certains sont aggravés, des épreuves parfois sont aggravées, d'ailleurs on entend des chrétiens qui sont limites avec le respect par rapport à Dieu, je ne comprends pas, pourquoi cette épreuve, elle est au-delà de mes forces. Moi je crois que Dieu ne s'est jamais trompé dans les épreuves qu'il envoie, jamais. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas bien. Parce que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il sait exactement les épreuves que nous devons traverser. Elles sont toutes utiles. La question que nous devrions nous poser plutôt, est-ce que je n'ai pas aggravé l'épreuve parce que mon bouclier, qui représente la foi, n'a plus d'huile ? C'est un sujet très sérieux. Des quantités de chrétiens ont été des pierres d'achoppement, ont scandalisé d'autres chrétiens, pour la simple unique raison qu'ils n'ont pas accepté l'épreuve, alors que l'épreuve, je ne sais pas si vous le savez, l'épreuve c'est une bénédiction. Vous n'avez pas dit amen, mais je n'en déduis pas forcément que vous n'êtes pas d'accord. Par contre, dans l'épreuve, on peut aggraver l'épreuve, en s'éloignant de Dieu, quand Saül a été jaloux, je suis persuadé, comme il était rempli du Saint-Esprit, que le Seigneur le lui a montré. Oui ou non ? Ben, c'est sûr. Et il ne l'a pas géré. Il ne l'a pas géré. Il se prenait, il était le roi, et il ne l'a pas géré. Il l'a tellement mal géré, que malgré le fait qu'il soit appelé loin de l'Éternel, même après sa mort, parce que le titre, c'est une chose, la fonction, c'en est une autre, à tel point qu'il a commencé avec de la jalousie parce que les femmes avaient chanté un cantique qu'il n'a pas du tout apprécié. Il a terminé en consultant une sorcière et en se suicidant. Et son porteur d'armes a fait la même chose, pour vous dire l'importance du modèle, du mauvais modèle. Dieu bénit. On a chanté « Jésus est au milieu de nous, je veux vous bénir ». La moitié, un truc comme ça, non ? Tous, Dieu veut bénir. Mais ne nous préoccupons pas de la guérison. Vous savez, moi, cette semaine, j'étais malade. J'étais bloqué dans mon lit toute la semaine. Mardi, je ne pouvais pas poser le pied par terre, j'ai vraiment eu mal. Et le lendemain, les deux pieds. La première chose que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que je le savais, j'ai vite compris, que je me laissais de nouveau accaparer par toutes mes activités. Alors que ce que Dieu veut, c'est que je le cherche. Et bien, Dieu m'a arrêté. Peut-être que des gens, vous voyez des gens, oh Seigneur, le diable l'attaque. Non, c'est pas le diable. Je crois que Dieu, il sait nous arrêter. Vous savez, les gens qui ne sont pas spirituels, de suite, il y a une épreuve, c'est le diable. Mes frères et sœurs, je ne pense pas que le diable va tout faire pour empêcher un de ses serviteurs de se tenir dans la présence de Dieu. Oui, le contraire. Nous, on a un problème avec la guérison et la maladie. On a un problème, croyez-moi. Il y a des choses plus importantes que la guérison. Vous le croyez, ça ? Mais nous, on est dans un mouvement où on a, à juste titre, développé la guérison, et on a raison de prêcher la guérison. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je peux vous dire, vous demanderez à Paul de Tarse, à Paul Saul de Tarse, s'il n'y a pas des choses plus importantes que la guérison. Donc David obtient la royauté, et de suite, il rassemble les, les responsables, les princes, les chefs, les sacrificateurs, les lévites, les chantres, il leur dit voilà, moi il y a quelque chose qu'il faut faire, vous rendez compte, ça a duré 20 ans. On ne s'est pas occupé de l'arche. Mais moi, mais c'est pas du tout dans un esprit culpabilisant que je le dis. Je le dis dans un esprit intelligent. Est-ce que vraiment, mon frère, ma sœur, vous vous occupez de ramener la présence de Dieu dans l'Église? Je vous pose une question, c'est sérieux. Qu'est-ce que tu fais pour ramener la présence de Jésus-Christ dans l'Église, dans ta vie personnelle? Si par exemple je vous demande de nous aider dans les visites, ce n'est pas pour que les stagiaires bullent un peu plus, c'est pour que les stagiaires aient du temps de qualité, afin que lorsqu'ils partiront dans une église prêcher la parole, ils ne se découragent pas. Encore cette semaine, j'ai appris qu'un pasteur avait arrêté, cette semaine, à cause d'une dépression. Et je suis sûr que le gars, il s'est donné de tout son cœur. L'intention est excellente. L'intention de David, est-ce qu'elle était bonne, l'intention de David? Mais elle était excellente. Ramener la présence de Dieu au cœur même de Jérusalem. L'intention est excellente. David est pourtant quelqu'un de pieux, de sérieux dans toutes les épreuves qu'il a traversées. Je ne sais pas si vous avez vu le livre des psaumes, ce qu'il a composé pendant ces épreuves. Ça révèle une communion qui s'est améliorée dans l'épreuve. Dans les déserts, dans les cavernes, dans la boue, dans les larmes, dans les angoisses. Il a été inspiré parce qu'il cherchait Dieu. Et bien sûr, quand il obtient la royauté, ce n'est pas l'état des routes qui l'inquiète. Ce n'est pas la quantité de soldats qui composeront son armée, c'est la présence de Dieu. Ça ne pouvait pas être mieux. Tout le monde est d'accord, mais bien sûr que si je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour amener la présence de Dieu davantage dans l'Église? Certains diront, mais il est là le Seigneur. Oui, il est là. Mais moi je vous dis que dans beaucoup d'endroits, le Seigneur est à la porte, et dans beaucoup d'églises, il est bien loin de la porte. Mais enfin, est-ce que vous ne croyez pas que la volonté de Dieu, c'est de délivrer, de guérir? C'est la volonté de Dieu, c'est sûr. C'est certain. Mais comme je l'ai dit, il y a des choses avant la guérison. Il y a des choses plus importantes que la guérison. Donc David fait ce qu'il a à faire, et sans faire attention, il va faire exactement comme les païens, les philistins, les prêtres, les devins. Il va ramener l'arche de la façon qui semblait la plus appropriée. On va la mettre sur un char tout neuf. C'était bien fait. On va la mettre sur un char tout neuf et on va ramener l'arche à la maison. Et il faut un char tout neuf et tout le monde s'implique, tout le monde s'applique, tout le monde vraiment se préoccupe, et tout cela est fait de bon cœur. L'intention est divine. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans le corps de Christ. En général, je ne parle même pas que des assemblées de Dieu. Je parle du corps de Christ. Moi, je ne suis pas préoccupé par les assemblées de Dieu. Je suis préoccupé par tout le corps du Christ. Vraiment. On cherche, et c'est une très bonne intention, à ramener la présence de Dieu dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos paroisses, et tout ce que vous voudrez. Mais on fait la méthode du monde. Il n'y a pas besoin des arts. Dieu peut bénir quelqu'un, un artiste, oui, bien sûr. Dieu peut bénir une chorale. Jonathan a à cœur de composer encore de nouveau un groupe vocal pour que les chants amènent l'onction et parlent à l'église, comme c'est le cas ce matin par les chants. C'est clair. Mais on n'a pas besoin de chorale. Dieu bénit les chorales. On a besoin de l'onction. Vous avez entendu la prière de Natacha Pauvert ce matin? Elle a dit avec cœur qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous vous rappelez sa prière? Elle a fait allusion à ce psaume 133 qui parle de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. La communion fraternelle, qui est un bienfait, elle est bénie par l'huile du Saint-Esprit. Vous le croyez? Il y a des églises où la communion fraternelle peut être un peu comme certaines portes, vous savez, quand ça grince, quand il n'y a pas d'huile. Mais combien de frères et de sœurs qui écouteront cette prédication vont certainement soupirer en entendant ces choses. Parce qu'il n'y a pas de communion fraternelle. Dans des églises, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile. Et quand on voit un homme comme David, cet homme quand même, cet homme de Dieu, qui s'est trompé. Il s'est trompé. Et il a été extrêmement peiné. Le mot là, quand il est irrité, tout ça, c'est, il n'est pas en colère contre Dieu. Il sait très bien qu'il s'est passé quelque chose. Il le sait. Et il ne comprend pas. Lorsque les bœufs arrivent à un morceau de terrain qui est penché, bien sûr, il s'est passé ce qui s'est passé. Uzza qui conduisait le char, Uzza ça veut dire fort, c'était un jeune. Il a fait ce que n'importe qui d'entre nous aurait fait, n'importe quelle personne responsable aurait fait. C'est un réflexe, n'importe qui l'aurait fait de soutenir l'arche. Et il est mort. Et je peux vous dire que la fête a été finie. Dieu était dans l'intention et il n'était pas dans la fête. Et nous devons, avec beaucoup de sérieux, ne pas chercher des... Moi, j'ai entendu souvent, même dans les rencontres pastorales, dire, c'est pas grave, l'intention. Dieu bénit tout, du moment qu'on le fait pour sa gloire. Ce n'est pas vrai. Dieu bénit sa parole. Que sa parole. Que sa parole. David, bien sûr... s'est fait avoir. Alors, frères et sœurs, si David s'est fait avoir, franchement, des fois, nous, ça nous fait flipper quand même. Il a été ulcéré, il a été peiné. Il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dieu n'est pas avec nous, Dieu n'est pas de la fête. Je peux vous dire que Dieu n'est pas dans ces fêtes où on essaie de ramener la présence de Dieu avec des moyens humains, mondains, diabolique. Diabolique. Je pèse mes mots, croyez-le. Pendant 3 mois, David, bien sûr, il savait très bien que s'il y avait un problème, il venait pas du côté de Dieu. Ne nous imaginez pas un instant, et j'espère que vous faites pas partie de ces chrétiens, en tous les cas ici. Seigneur, pourquoi tu guéris pas? Pourquoi tu bénis pas? Il y a une raison. Dieu veut bénir. Il est là pour bénir. Il est là pour parler surtout. Alors David pendant 3 mois, et puis après il a cherché, il a lu. Il a lu dans les nombres. Ah mais l'arche de l'Éternel ne doit être portée que par les sacrificateurs. Il y a des anneaux au coin de l'arche. Vous savez ce coffre en bois? Des petits anneaux là. Des anneaux, des détails. Mais c'est des détails. Mais les détails, on s'en fiche des détails. La jalousie, mais c'est, tu vas pas me faire une histoire. Je ne suis pas un criminel. Les détails, c'est important. Et David va rassembler de nouveau les princes. Il dit, écoutez, on s'est trompé. Il ne faut pas ramener l'arche comme ça. On s'est trompé. Il faut que les sacrificateurs soient là. Il faut que les lévites soient là. C'est à eux à porter l'arche. Et faites venir les sacrificateurs, sanctifiez-vous et portez l'arche. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. Donc nous, on est là, on se dit, mais oui, quand je vous dis de nous aider pour les visites, pour que nous, les pasteurs, nous nous appliquions, ce matin nous parlions avec le nouveau pasteur sur ce verset qu'il n'avait pas réalisé, qu'il est bien écrit, nous nous appliquerons. Vous savez ce que c'est quand on demande à un enfant de s'appliquer? Ceux qui sont en cours préparatoire, tu vas écrire la lettre A, applique-toi. Tu vas l'écrire 50 fois jusqu'à ce que tu saches faire les courbes et les crochets, etc. C'est pas vrai? On demande aux enfants de s'appliquer. C'est pas grave s'ils se trompent un peu. Mais nous, les pasteurs, est-ce que nous avons le droit de transgresser cette bénédiction, ce petit anneau? Ben c'est un détail, tu ne vas pas nous prendre la tête avec ça. On me le dit souvent. Hein. Tu ne vas pas nous chauffer la tête. Hein, ne riez pas, parce que c'est à cause de ça que nous n'avons pas l'approbation de Dieu. Parce que moi, ce que je vous dis, je le dis, mais j'espère que derrière, vous voyez que nous avons un Dieu qui veut sauver et guérir et ramener des rétrogrades, et que quand les rétrogrades viennent, ils ne nous prennent pas pour des clowns. Qu'ils voient cette huile qui coule. Moi, je me suis régalé d'écouter la prière de Natacha, parce que je sais que c'est vrai. Que lorsque nous nous appliquons, chacun, l'Église, ce n'est pas le travail du pasteur. L'Église, c'est un travail de tout le monde. Je dois me préparer à amener, comme disait Jonathan lorsqu'il a introduit les chants, vous n'avez peut-être pas fait attention, lorsqu'il a dit, amener le Seigneur Jésus à l'Église. Vous vous rappelez quand il a présenté les chants? Est-ce que je m'applique à amener le Seigneur à l'Église? Quand il disait cela, je pensais à Alan, le jour de la fête des rameaux, qui était là et qui marchait sur le chemin en allant à Jérusalem. Pensez à cet âne qui entendait Hosanna, qui marchait sur des palmes et des branches. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. J'espère que vous comprendrez la parabole. Peut-être il a pensé à sa mère. Je suis quand même meilleur que maman. On ne lui a jamais fait ça, elle. Sa mère aurait pu lui envoyer un texto et lui dire, mon fils, regarde un peu plus haut. C'est pas pour toi. C'est parce que tu portes le Seigneur des Seigneurs. C'est sûr que nous, simples bourricots parfois, nous avons tendance à penser que, mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est que nous portions le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous pose la question, qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous pousse à l'activisme, ce qui est complètement idiot. Je vous encourage à chercher Dieu, parce qu'il faut que même ce jeûne que nous allons avoir dans la semaine contribue à cela, parce qu'on a des jeunes souvent, moi je l'ai fait, on bénit Tati, bénit Mémé, bénit mon frère qui a de l'arthrose, bénit mon papa qui perd les cheveux, etc. etc. Bon, il faut le faire. Mais mes frères et sœurs, je crois que nous devrions comprendre qu'il nous faut amener l'onction. Cette semaine, il y a 3 ou 4 semaines, 2 semaines, ouais, je lisais dans le Lévitique les sacrifices d'action de grâce. C'est important pour nous. Bon, je sais que c'est votre livre préféré. Mais regardez avec moi, s'il vous plaît. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 7, il y a une loi sur le sacrifice d'action de grâce. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi, s'il vous plaît? Ça m'a frappé quand je l'ai lu. Ça m'a frappé dans la semaine. Vraiment, ça m'a frappé. Car quand même, ça en dit long. Lévitique 7, verset 11. C'est peut-être un texte que nous pourrions méditer dans cette semaine de jeûne et prière. Regardez, c'est quand même les actions de grâce. C'est important dans l'Église de rendre grâce à Dieu. Nos cantiques de louange, on a beaucoup et c'est bien. Regardez. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain, comment ? Pétris à l'huile. Des galettes sans levain, arrosées d'huile. Pétris à l'huile, arrosées d'huile. Les actions de grâce. Les actions de grâce. Lorsque elles sont là comme des gâteaux, parce qu'un travail s'est fait à l'intérieur, pétri à l'huile. Quand on parle de ce travail, on pense à la croix, à ce travail de mort à soi-même, de renoncement, etc. Je vais particulier là-dessus. Mais il y a un travail intérieur. Plus le fait que le gâteau soit arrosé d'huile. Un gâteau, ça sert à restaurer. La communion fraternelle devrait nous restaurer. Vous êtes d'accord avec ça? Les actions de grâce devraient tous nous faire du bien. Quand on entend un frère, une sœur louer Dieu, ça devrait nous faire du bien. Oui ou non? Ça devrait nous faire du bien. J'amène par mon action de grâce. Parce que quelque chose s'est passé vraiment à l'intérieur dans ce moment où j'ai, parce qu'un gâteau, il faut le préparer. Il y a toujours une préparation. Je me prépare. Vous seriez, je vous connais, je peux vous le dire avec beaucoup de cœur, ça fait 20 ans que vous m'écoutez. Je pense que vous seriez vraiment mécontent si je ne préparais plus mes prédications. Oui ou non? Mais mes frères, chacun à notre niveau, à partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, et normalement comme Seigneur, nous devrions faire en sorte que nos actions de grâce, déjà, je ne vais pas tout dire, je n'aurai pas le temps, mais nos actions de grâce soient comme des gâteaux qui nourrissent les autres. Il y a des gens, ils ont prié, on a dit amen parce qu'on était contents qu'ils arrêtent la prière. Oui ou non? Est-ce que ça s'est jamais présenté, ça? Déjà, y prier, ça nous fatigue. Oui, ça ne s'est peut-être pas passé ici. Oui ou non? Ça devrait... Bien sûr que ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, tu sais, tes prières, elles nous fatiguent. Moi, avec le tact qui me caractérise, je fais vraiment attention. J'ose pas le dire des fois. L'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ce matin, avant de venir au culte, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Parce que l'onction, elle est représentée par l'huile, mes frères et sœurs. L'huile, elle vient d'en haut. Elle coule. Et Saül a cessé d'être loin. Et il a perdu le combat. Que c'est triste lorsque nous ne vivons pas nos combats comme nous devrions les vivre. Parce que moi, je crois sincèrement que les combats devraient être les bons combats de la foi. Vraiment, je le pense. Combat, le bon combat. Les chrétiens, ils envoient tout balader. Et je ne comprends pas, je suis dans le désert, j'en ai marre, je ne vais plus à l'église. Je vous ai parlé d'une église qui a fermé cette semaine. Mais vous savez, dans cette église, il manquait beaucoup d'huile. s'engraincer à toutes les portes. Et il y en a deux qui s'en vont, et il y en a trois autres qui sont mécontents, et on fait un groupe d'ici de prière pour, au nom de l'action du Saint-Esprit. Le résultat, c'est qu'à la place d'ouvrir des églises, parce que lui, il a cessé de nous joindre, on les ferme les églises. L'intention, même dans la bouche du roi David, il faut y faire attention. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a parlé, vous voyez, juste de l'huile, de la louange. Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit pour blesser quelqu'un. Si vous fatiguez quelqu'un, peut-être ça faciliterait que vous veniez me dire « Est-ce que je fatigue les gens quand je prie ?» Ça me faciliterait de vous le dire. Mais mes frères et sœurs, si nous bichonnons notre communion avec Dieu, nous allons bénir par nos louanges. Si nous bichonnons notre communion avec Dieu, nos actions de grâce seront comme des gâteaux chauds que nous allons donner. Avec cette huile qui adoucit. Hier soir, je priais, j'ai pensé à ce texte, c'est dans Ésaïe. Lisez-le avec moi, il est beau ce texte. Dans Ésaïe, au chapitre 1er, au verset 4, il est parlé. Regardez, on va le lire. Regardez, il est beau ce texte. Enfin, oui, bon, Dieu reproche des choses, mais il y a une solution. Parce que vous savez, quand Dieu reproche, normalement, derrière, quand on sait bien lire, il y a la réponse, il y a la solution. Il y a des gens qui disent « Oui, moi je ne lis pas ça parce que c'est des jugements. » Si on lisait un peu mieux, on verrait quand même qu'il y a autre chose. Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er, verset 4. La deuxième partie du verset 4. « Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. » Vous savez, quand on ne s'occupe pas de ramener la présence de Dieu dans une église, moi je peux vous dire qu'on a beaucoup de mépris. Inconsciemment, ce n'est pas un reproche. Ils se sont retirés en arrière, ça parle des gens qui ont rétrogradé. Mais il n'y a pas besoin de quitter l'église pour rétrograder. Quel châtiment nouveau vous infligez? Alors ça, c'est des questions qui nous blessent. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Dont la solution est liée, l'esprit. Il y a des blessés, on parle de la parabole du bon samaritain pour expliquer qu'il y a des blessés au bord du chemin. Il n'y a pas que des blessés au milieu des inconvertis. Je pense que dans l'église du Seigneur, il y a des gens qui sont blessés. Il y a peut-être quelqu'un au milieu de nous qui est blessé. Ça peut arriver. Ce n'est pas grave. Franchement, moi je l'ai été. Heureusement que j'avais ma femme. Ce n'était pas ici. Mais Dieu a permis que je sois dans une église où c'était tellement bien que je pouvais en parler à personne. Mais ma femme était là, mes enfants aussi. J'étais petit, mais ils m'aidaient. Quelqu'un est blessé? Tu es blessé? Est-ce que si je me prépare, je viens à l'église, je me prépare pour accueillir un nouveau peut-être, mais aussi un frère. Il a passé une mauvaise semaine, peut-être il est dans le deuil. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un soit dans le deuil? Jérôme, Manuela était dans le deuil il y a 15 jours. J'espère qu'on ne vous a pas affligé quand vous êtes arrivé à l'Assemblée. Moi, quand j'étais mal, je venais de perdre ma sœur jumelle. Et il y a une chrétienne, vous savez, ces gens remplis du Saint-Esprit. Elle m'a dit, vous savez, si votre sœur jumelle, elle est morte, c'est parce que vous vivez dans le péché. Et on sent qu'il y a des gens qui ont un ministère particulier. Non mais moi, ça ne m'a pas touché. Je savais ce que je vivais. Mais je sais qu'il y a des gens qui auraient perdu la foi pour ça. Mais imaginons-nous, quel que soit le cas, parce que là c'est quand même costaud, comme tout est malade, de la plante du pied jusqu'à la tête. Bon là ça ne peut pas être plus grave. Dieu dit, mais il y a une solution. Il faut que toutes ces plaies soient adoucies par l'huile. Donc, mon bouclier, ma foi, le pain, mon travail, est-ce que je me prépare? Qu'est-ce que je fais lorsque un truc me déplaît? Est-ce que je dis non, je... Moi, vous savez, franchement, je vous assure, je vous le dis parce que je peux vous le dire, moi, je suis poussé à chercher Dieu. Poussé. Toute la semaine, j'ai lu. Toute la semaine. Toute la semaine. J'étais couché, je ne pouvais pas marcher. Mais béni soit Dieu. J'ai lu, j'ai médité, j'ai prié, et je savais, et j'étais heureux. Je disais aïe de temps en temps, quand je bougeais ma jambe. Aïe, aïe, plus, fort même. Mais je savais que Dieu me coinçait pour que je fasse ce que j'ai à faire. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, tu dois faire ce que Dieu te demande. Plutôt que d'aggraver une épreuve qui fera que ton bouclier n'aura plus d'huile, que tu n'auras plus de farine, que tu n'auras plus de farine pour pétrir tout ça avec l'œuvre du Saint-Esprit et répandre sur les autres un bon gâteau. Je viendrai à l'église. Qu'est-ce que j'ai mis sur mes notes? Je viendrai à l'église avec la paix. Je procurerai la paix. Vous vous rendez compte quand on dit à des gens... Si ça ne va pas, c'est parce que... Ou si tu as perdu quelqu'un de ta famille, c'est parce que tu es dans le péché. Et mon frère, je le dis, moi je crois que Dieu contrôle toutes les épreuves. Toutes. Demandez à Jonas s'il ne contrôle pas d'une manière assez précise les éléments. Dieu aimait Jonas. Mais je sais qu'une chose, mes frères et sœurs. Dieu a donné sa vie en Jésus-Christ sur la croix du calvaire pour que l'Église soit vivante. Vous êtes le corps de Christ. Notre place est dans le corps de Christ. Et je pourrais en dire là-dessus. Mais mon frère, est-ce que ma sœur, est-ce que tu es capable, est-ce que tu as soif, comme cela a été rappelé dans les chants, dans la Sainte-Seine? Est-ce que tu as soif, pas de bénédiction, vous avez soif de bénédiction, ça doit être réglé une fois pour toutes. Soif de te poser la question et de dire, mais quels sont les détails que j'ai négligés? Quels sont les comportements qui t'ont attristé? Est-ce que je ne me suis pas laissé piéger comme David, comme Saül qui était jaloux? Parce que ça c'est pas un truc méchant grave, la jalousie. C'est charnel. C'est pas. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est pas non plus dramatique. Je suis jaloux, on utilise le frère, on ne m'utilise pas. Bon, après, bon, je dépose ça. C'est pas méga grave. Mais quand ça nous amène à terminer la course en nous jetant sur notre épée, je pense qu'il faut faire attention à toutes ces petites choses qui ravagent la vigne du Seigneur. Je vais venir dans l'église, je me préparerai. Cet après-midi, si je reviens, je me préparerai, parce que ce n'est pas qu'à Jonathan qui va prêcher de se préparer, ou d'arriver après les inconvertis. Je crois que les inconvertis, c'est bien quand on les accueille aussi. Moi, vous savez, des fois, je ne viens pas, vous savez pourquoi. Parce que je ne peux pas. Mais je vous assure qu'après ma sieste, je me tiens devant Dieu. Et j'espère que ce n'est pas une pierre d'achoppement pour les chrétiens de dire, Monsieur Gou, il ne vient pas, moi, je ne viens pas. Si je ne viens pas, c'est pour ménager ma santé, parce que je vous assure, il faut que je fasse attention. Et je préfère être efficace deux fois ou trois fois par semaine que me planter en faisant tout. Mais je viendrai dans la maison du Seigneur. Je préparerai du pain. Vous aimez les bons gâteaux? Montrez-moi-le. Vous aimez les bons gâteaux, vous aimez l'huile qui coule. Je me préparerai, Seigneur. Je chercherai ta face. Jonathan parlait de ce jeûne et prière qui était présenté par Ésaïe 55. Cherchez la bénédiction. C'est ça qui est écrit? Cherchez vos intérêts. C'est écrit comment? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Frères et sœurs, David a pleuré pendant trois mois, ça. Il était malheureux, vous savez, les Uzza, il en meurt quelques-uns en France tous les jours. Des brèches, Uzza Peretz, ça veut dire la brèche. Vous croyez, quand on voit tous ces pasteurs qui arrêtent le ministère, toutes ces églises qui ferment, des brèches, je trouve qu'il y en a un peu trop. Mais nous avons un Dieu tout puissant. Et s'il trouve une église, des frères, des sœurs, qui lorsqu'ils seront au bout de la rue, continueront à réfléchir et à dire, mais je vais, à la place de me distraire dans des milliers de choses qui m'éloignent de toi, Seigneur, je vais me distraire et me détendre dans ta présence, parce que je crois qu'au niveau de la détente, si vous trouvez mieux que la présence de Dieu, expliquez-moi-le. Mes frères et sœurs, Dieu veut bénir notre génération. Dieu veut bénir nos familles. Dieu veut bénir le corps de Christ. Il a dit à Zacharie, celui qui a commencé son œuvre, il l'achèvera. Reste à savoir avec qui. Mais Dieu terminera son œuvre. Il a commencé sa maison à la Pentecôte et il la terminera. Je ne vois pas bien comment Dieu ne pourrait pas terminer la construction de son Église. Est-ce que vous voudriez faire partie de ceux, de celles qui prépareront des gâteaux remplis d'huile, couverts d'huile? S'il y a quelqu'un ce matin qui répond à Dieu et dit, Seigneur, j'en ai peut-être pour 3 semaines ou pour 3 mois à découvrir ce que tu veux que je fasse, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine quand même? Vous ne croyez pas, mes frères et sœurs? Sincèrement, faites attention aux choses qui vous distraient. Faites-y attention. Le diable, quelqu'un me disait l'autre jour, je passe des heures sur mon ordi, je me réveille, je suis sur ma tablette, je me couche avec ma tablette, je m'endors sur mon téléphone. Je pense là qu'il y a besoin d'un petit moment de sevrage, je vous le dis. Si vous faites partie des gens qui vous levez avec le téléphone, qui vous couchez avec le téléphone, je pense, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que j'en fais trop? Demandez-lui. Est-ce qu'on pourrait lui demander de l'aide? Vous êtes d'accord qu'on lui demande de l'aide? On se recueille ensemble. Si nous avons l'intention de ramener la présence de Dieu dans l'Église, c'est bien. Mais pas avec nos méthodes, pas avec nos idées, avec l'onction, avec de l'huile sur les boucliers, avec de l'huile dans nos sacrifices d'action de grâce, etc. Notre Père, nous voudrions ressembler à David dans ces 3 mois où il s'est plongé dans les Écritures pour savoir comment cette arche devait être ramenée. Nous croyons, Seigneur, que si tu as éclairé David, tu éclaireras tous tes enfants, plus que nous sommes tous des sacrificateurs. Éternel, nous te demandons pardon pour toutes les fois où la distraction, les plaisirs ont fait que, comme Saül, nous ne nous sommes pas intéressés à l'arche, mais qu'à ta bénédiction. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi. Nous croyons que c'est ta volonté avant que tu ne reviennes chercher l'épouse, que tous nos boucliers soient oints d'huile. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Oui, comme ces gâteaux pétris nous parlent de la croix, nous voulons ne jamais oublier Gethsémané. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.